lecture pour la fête de Saint Jacques. L'épître est tirée de Saint Paul aux Corinthiens, mes frères. Il me semble que Dieu nous traite, nous les apôtres, comme les derniers des hommes, comme des condamnés à mort, puisque nous sommes donnés en spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Nous ne sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes sages dans le Christ. Nous sommes faibles et vous êtes forts, vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, on nous frappe au visage, nous n'avons pas de demeure stable. Nous nous fatiguons à travailler de nos mains, on nous maudit et nous bénissons, on nous persécute et nous supportons. On nous blasphème et nous prions, nous sommes devenus comme les ordures du monde, comme les balayures de tous jusqu'à présent. Ce n'est pas pour vous faire honte que je vous écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car eussiez-vous 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui par l'évangile vous ai engendré en Jésus-Christ notre Seigneur. On se lève pour l'évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. Il lui dit, « Que voulez-vous ?»« Ordonnez, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans votre royaume, l'un à votre droite et l'autre à votre gauche. » Et Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je vais boire ?» Et lui dire, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Oui, vous boirez mon calice. Quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous le donner. Ce sera pour ceux auxquels mon Père l'a préparé. » Veuillez vous asseoir. Alors, je rappelle, surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet, qu'il y a encore des places pour la dernière retraite de l'année du 18 octobre au 23 octobre. La retraite de septembre est pleine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, aujourd'hui la fête de Saint-Jacques, mais vu la richesse des textes du 9e dimanche après la Pentecôte, je vais utiliser ces textes pour le sermon. Quelques mots d'abord sur Saint-Jacques, c'est que Saint-Jacques est un des trois apôtres que Jésus aimait tout particulièrement. C'est très important à comprendre. Jésus aime tous les apôtres. Mais il a un amour particulier pour certains d'entre eux. Il n'y a pas d'égalité entre les apôtres. Les trois apôtres préférés, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Saint-Pierre parce qu'il deviendra le premier pape. Saint-Jean parce qu'il était l'unique apôtre qui avait jamais été marié, l'apôtre vierge. Et Saint-Jacques le majeur qu'on fête aujourd'hui, parce qu'il sera le premier apôtre à mourir pour notre Seigneur. Il a été décapité par le roi Hérode en 42, pour plaire aux Juifs. C'est que son corps est à Saint-Jacques de Compostelle, un des trois grands pèlerinages de chrétienté. Il y avait Jérusalem d'abord, puis Rome, et puis Santiago, Saint-Jacques de Compostelle. Et je voudrais vous dire quelques mots sur l'épître. L'épître et l'évangile du 9e dimanche. Notre Seigneur nous frappe très fort. Qu'est-ce qu'il reproche aux Juifs et à nous ? Il dit, vous avez transformé ma maison de prière en une caverne de voleurs. Alors, il faut se garder de dire, notre Seigneur Jésus-Christ parle pour les Juifs. C'est vrai qu'il parlait pour les Juifs, mais il parle aussi pour nous. On a un peu trop tendance à tout mettre sur les dos des autres, c'est facile. Qu'est-ce que c'est que cette caverne de voleurs ? Il y a plusieurs interprétations possibles. Bien sûr, on peut dire que la caverne de voleurs, facile de dire, c'est l'église de Vatican II qui est devenue une caverne de voleurs. Très bien, c'est vrai. Mais je pense que la caverne de voleurs, et quand on voit chez les pères de l'église, très intéressant, la caverne de voleurs, c'est notre âme. Notre âme est le temple du Saint-Esprit. Par le baptême, notre âme a été consacrée au bon Dieu, marquée d'un caractère ineffaçable, le caractère par lequel nous devenons enfants de Dieu. Mais lorsque nous commettons une faute grave, on transforme cette caverne, ce temple, en une caverne de voleurs. Il faut réaliser ça, on n'y pense pas assez. On a un peu trop tendance à considérer, j'ai commis un péché mortel, bien sûr, c'est embêtant, mais on va se confesser puis on n'en parle plus. Et il faut réaliser, le texte de notre Seigneur s'applique. Je transforme mon âme en une caverne de voleurs. Imaginez, c'est un peu la même chose que j'ouvre la porte du tabernacle, je prends les hosties consacrées et je les jette au pourceau dans la boue. C'est la même chose. Donc il faut demander au bon Dieu cette grâce de comprendre et de réaliser ces choses. Et un deuxième avertissement que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas connu, dit-il, le temps où tu as été visité. Et là, encore une fois, c'est pour nous. Trop de gens, encore une fois, j'entends ça tout le temps. Ah, monsieur l'abbé, notre Seigneur parle pour les Juifs. C'est les Juifs qui ont refusé la visitation de notre Seigneur. Attention! L'Évangile s'adresse aussi à nous catholiques. Donc le bon Dieu nous reproche à nous, chrétiens, catholiques d'aujourd'hui, de ne pas toujours avoir reconnu le temps de notre visitation. Est-ce que je réalise, par exemple, de quand date ma dernière visite personnelle de notre Seigneur Jésus-Christ à mon âme? Ma dernière confession, par exemple, ma dernière communion. Notre Seigneur Jésus-Christ vient nous visiter de façon réelle. Il rentre avec son corps, son sang, son âme et sa divinité dans notre âme par la Sainte Communion. C'est une visite extraordinaire. Est-ce que j'ai connu cette visite? Est-ce que, après que notre Seigneur Jésus-Christ soit venu visiter mon âme, est-ce que j'ai augmenté le degré de charité dans mon âme? Si notre Seigneur Jésus-Christ vient chez nous et qu'il ressort après une présence chez nous, plus ou moins longue, pendant moins la Sainte Messe, et qu'il n'y a aucun changement chez nous, notre Seigneur Jésus-Christ aurait le droit de nous faire ce reproche: tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Donc, utilisons cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ, reconnaissons la grâce extraordinaire qui est la nôtre, par laquelle, justement, nous transformons un temple humain en un temple divin. C'est ça la communion. La transsubstantiation, si vous voulez, de la Sainte Messe, notre Seigneur Jésus-Christ qui vient sur l'autel pendant la Sainte Messe avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, est aussi le symbole de notre propre transfiguration. Il faut que nous aussi, lorsque nous nous confessons, lorsque nous communions, nous puissions voir ce changement dans notre âme. Et si notre âme était peut-être avant la confession une caverne de voleurs, notre âme est devenue et va devenir un lieu de paix, un lieu de prière, un temple de Dieu. Il y a d'autres détails dans ces textes du 9e dimanche qui sont très très forts. Qu'est-ce que dit saint Paul? Et notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de saint Luc, il dit que, je retrouve le texte exact, le peuple s'assit pour manger, boire et danser. Évidemment, là, il y a une allusion très nette à l'Ancien Testament, au peuple hébreu. Mais que ça veut dire le peuple qui s'assoit? Le peuple qui s'assoit, c'est les catholiques qui baissent leur garde. Le peuple qui s'assoit, ce sont les catholiques qui arrêtent de se protéger spirituellement, qui ouvrent la porte de leur maison toute grande et n'importe qui peut rentrer dans la maison. Le démon peut rentrer dans la maison. Et lorsqu'on baisse ses gardes surnaturelles, ses gardes surnaturelles, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on boit, on danse. Ça veut dire qu'on enlève les protections et donc les passions sont sans aucun contrôle et vont se déchaîner sur les trois concupiscences. Concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil, concupiscence des yeux. Et c'est exactement ce qui se passe chez nous. Lorsque je laisse rentrer le démon chez moi par le péché, eh bien, non seulement je transforme une maison de prière en une caverne de voleurs, mais je fais ce qu'ont fait les Juifs de l'Ancien Testament. Je m'assois, j'ouvre les portes, et évidemment, le démon peut rentrer dans la maison. Et comme ma maison appartenait au bon Dieu, saint Paul prévient que si le démon revient, il va revenir avec sept démons pire que lui. Et donc, il faut réaliser ces choses-là. Donc, ce peuple qui s'assied pour boire, manger et danser, représente justement tous les gens qui, et ça peut nous arriver à nous, qui font sortir notre Seigneur Jésus-Christ par le péché. Et saint Paul explique très bien, ça c'est très bien expliqué dans une autre épître de saint Paul, le premier chapitre de l'épître aux Romains de saint Paul. Il explique que lorsque le bon Dieu quitte une âme, les passions vont devenir justement sans aucune protection. Et donc, la première conséquence, c'est l'orgueil qui va rentrer dans l'âme. Et l'orgueil va entraîner l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? L'adoration d'un faux Dieu. Et là, encore une fois, il faut faire attention. On entend beaucoup trop de gens le dire. Monsieur l'abbé, l'idolâtrie, c'est l'adoration des arbres, du soleil, de la lune. Je ne suis jamais tombé dans des fautes pareilles. Mais attention, les différentes sortes d'idolâtrie. À chaque fois que je fais passer une créature, quelle qu'elle soit, que ce soit ma voiture, mon ordinateur, ou même mes enfants, mon épouse ou mon époux, avant le bon Dieu, c'est une forme d'idolâtrie. Et donc, il faut réaliser tout ça. Regardez ce que dit saint Paul. Il explique les conséquences du fait que le peuple s'assoit pour manger, pour boire et pour danser. Là, il fait allusion, en fait, au veau d'or. Dès que Moïse est monté pour recevoir sur la montagne, pour recevoir les 10 commandements du bon Dieu, le peuple s'est déchaîné, a commencé à danser, à manger, à boire, à danser, à tomber dans l'idolâtrie, l'adoration du faux Dieu, l'adoration du veau d'or. Regardez les conséquences. Saint Paul explique très bien. Ne commettons pas de fornication, comme plusieurs le firent parmi eux, il en périt 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Christ, comme quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas, point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui furent frappés de mort par l'ange exterminateur. Mais c'est la même chose pour nous. Dire, si j'abandonne notre Seigneur Jésus-Christ, si je laisse le démon rentrer dans mon âme, qu'est-ce qui va se passer? Je vais moi aussi tomber dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, à ce moment-là, laisse la porte ouverte à tous les excès. Et saint Paul explique bien dans l'épître aux Romains, surtout les excès contre nature. C'est ce qu'il explique. Et dans ces textes que j'essaie de vous commenter, notre Seigneur donne des conseils très forts qu'il nous faut méditer. Le premier conseil qu'il nous donne, conseil de l'humilité, que celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Encore une fois, trop souvent on entend ça. Monsieur l'abbé, moi j'ai la foi fort comme un granit, pas de problème, je tiendrai le coup. Vous tiendrez le coup si le bon Dieu vous donne la grâce. Rappelez-vous Saint-Pierre. Seigneur, même si tous vous trahissent, je ne vous trahirai pas. Avant même que le coq n'ait chanté, tu m'auras trahi. Tu m'auras trahi trois fois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc se rappeler cette humilité, que celui qui est debout, qui prenne garde de ne pas tomber. J'ai la foi actuellement, le bon Dieu a permis que je garde la foi, alors qu'autour de moi des millions de personnes ont perdu cette foi. Et j'ai gardé la foi non pas par mes propres mérites, non pas par mes propres forces, j'ai gardé la foi parce que le bon Dieu m'a donné la grâce de garder la foi. Moi, je me pose souvent cette question. Comment se fait-il que j'ai pu conserver la foi? J'en sais rien. Ah ben le bon Dieu m'aime d'une façon plus particulière. Oui. Deuxième question, pourquoi est-ce que le bon Dieu m'aime d'une façon plus particulière? J'en sais strictement rien. C'est vraiment une drôle d'idée, humainement parlant. Et donc, il faut se maintenir dans l'humilité, parce que, encore une fois, il faut se dire que si le voisin avait reçu les mêmes grâces que moi j'ai reçues, peut-être que le voisin serait trois fois plus saint que moi. Donc ça ne vient pas de nos propres forces, ça vient des grâces du bon Dieu. Et deuxième conseil que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, il nous rappelle l'importance de la fidélité. Et il dit, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, nous aurons toujours un moyen pour nous en sortir. Donc on peut vraiment compter sur notre Seigneur Jésus-Christ. À la fois, il faut se maintenir dans l'humilité en disant, c'est par la grâce du bon Dieu qu'est-ce qu'on savait la foi, ça c'est sûr. Mais en même temps, il faut aussi faire confiance au bon Dieu qui ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et par les temps qui courent, avec tout ce qui se prépare en France actuellement, avec la dictature sanitaire et toutes ces horreurs, eh bien, il faut vraiment se mettre à genoux devant le bon Dieu en disant « Oh mon Dieu, ayez pitié de moi ». Rappelez-vous la prière de saint Philippe Néri que je vous cite souvent. « Oh Jésus, gardez Philippe entre vos mains. Parce que sans votre grâce, ici, demain matin, je suis suffisamment bête pour me faire musulman. » Certaines traductions disent « Je suis suffisamment bête pour devenir juif. » Saint Philippe Néri. Alors si saint Philippe Néri faisait cette prière, peut-être que moi je peux la faire aussi. Oh mon Dieu, gardez-moi entre vos mains. Oh mon Dieu, gardez-moi dans la foi catholique, parce que sans votre grâce, ici demain matin, je suis capable de me faire moderniste. Et une autre phrase qui m'a frappé dans les textes du 9e dimanche après la Pentecôte, notre Seigneur nous dit, si tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. On peut se poser cette question, qu'est-ce qui va me procurer la paix? Ce qui va me procurer la paix, c'est justement cette union avec notre Seigneur. C'est la prière, ce sont les sacrements, c'est l'étude. C'est ça qui nous donne la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix de Dieu? La paix de Dieu, c'est quoi? C'est la charité. La charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. C'est ça qui nous donne la paix. La seule paix que nous pouvons avoir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il faut encore une fois demander avec humilité de garder cette paix. N'oublions pas que les conséquences, qu'on appelle la couronne de la charité, les conséquences de la présence de la charité en nous, justement, c'est ce que dit Saint Paul aux Galates, la paix et la joie. La paix et la joie, les fruits du Saint-Esprit. Tout à fait au début, il y a la charité, la paix, la joie. Donc, ne cherchons pas à trouver la paix de notre Seigneur Jésus, la paix en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est absolument impossible. Donc, vous voyez, rappelons-nous ces trois conseils de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous prévient, il nous le dit expressément, ça c'est dans l'évangile du jour. Il va faire une allusion très nette à la destruction de la ville de Jérusalem, et il nous prévient. Il viendra pour toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, ils t'enfermeront, ils te serreront tout part, ils te détruiront complètement, toi et tes enfants qui sont dans ton enceinte, ils ne se laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il faut prendre la phrase aussi dans les deux sens. Si j'ai reconnu le temps de la visite de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne pourront rien faire contre moi. C'est là qu'il faut retrouver le texte de saint Paul que je viens de citer. Dieu est fidèle, ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais bien réaliser, bien comprendre qu'il viendra des jours où le démon cherchera à nous détruire complètement la paix de notre âme, détruire complètement la vertu de charité en nous. Mais si nous avons en nous cette charité, l'amour du bon Dieu en nous, c'est ça la charité c'est quoi? C'est la vertu théologale qui nous permet de remplir les commandements du bon Dieu, la croix, la foi pour croire, l'espérance pour prier, la charité pour obéir à la loi du bon Dieu. C'est pour ça qu'on a la vertu de charité en nous, puisque la charité est nécessaire au salut. Il est évident que si on ne suit pas la loi du bon Dieu, on ne peut pas sauver son âme. Donc on a besoin de la charité pour sauver notre âme. Et donc il faut demander avec humilité, oh mon Dieu, gardez-moi entre vos mains. Parce qu'encore une fois, sans votre grâce, je ne peux rien faire. Donc il faut demander au bon Dieu cette grâce de savoir garder notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Et pas simplement pour nous, mais les parents qui m'écoutent doivent faire justement attention, se poser vraiment cette question, non seulement se poser tous les soirs la question, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours en moi, mais est-ce que les enfants ou les gens dont j'ai la charge ont notre Seigneur Jésus-Christ en eux, dans la mesure où ça dépend de moi. Il ne s'agit pas que des parents se disent, par exemple, ça va, je suis en état de grâce, d'eau gracieuse. Est-ce que mes enfants sont en état de grâce? Est-ce que j'ai tout fait pour que mes enfants restent en état de grâce? Bon, je ne veux pas dire que les parents sont responsables de tous les péchés des enfants, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais les parents ont une partie de responsabilité. Il ne s'agit pas simplement de conserver la charité pour nous. La foi, c'est une praxie, attention. La foi, ça consiste à conserver la charité, mais à transmettre cette vertu de charité. Rappelez-vous, j'ai expliqué ça, je crois, il y a une semaine ou 15 jours. Le jour de notre mort, qu'est-ce que va nous demander le bon Dieu? Il nous posait deux questions. Rends compte de ta gestion, ton âme. Rends compte de la gestion des gens dont tu as la charge. Pour moi, prêtre, c'est mes fidèles, ce sont mes fidèles. Pour les parents, ce sont les enfants. Donc, rends compte de ta gestion concernant ton âme. Rends compte de ta gestion concernant les gens que je t'ai confiés, les âmes que je t'ai confiées. Donc, il faut demander au bon Dieu cet amour qui est tellement nécessaire, amour du bon Dieu d'abord, et ensuite amour de tous les dons que le bon Dieu nous a donnés, dons naturels et dons surnaturels, justement pour conserver tous ces dons. Bon Dieu vous a confié une famille, par exemple, pour ceux qui sont mariés, avec des enfants ou sans enfants, selon la volonté du bon Dieu. Eh bien, je dois conserver cette famille. Donc, tout faire aujourd'hui, alors que on voit autour de nous le gouvernement français qui cherche par tous les moyens à détruire complètement la famille, à saborder complètement la famille. D'ailleurs, on peut dire que la famille, en tant qu'institution, a littéralement disparu en France, ou presque. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut justement protéger la famille, protéger l'autorité du père de famille comme chef de famille, protéger l'autorité de la mère de famille comme cœur de la famille. Il faut un cœur et une cervelle. Pour pouvoir justement protéger les enfants, afin que nous préparions nos enfants à aller au ciel. Et aussi, à mesure où on peut le faire encore un peu, protéger la pauvre patrie dans laquelle le bon Dieu a voulu que nous soyons. Donc il faut demander au bon Dieu de prier pour la France, de prier pour la patrie. Pour sauver la patrie, pour sauver le pays, pour sauver la France, pas pour sauver la République dont on se contrefiche. Si la République française meurt de ses propres de sa belle mort demain matin, c'est pas moi qui veux pleurer, hein. Au contraire, j'irai chanter un Tédéum. Mais par contre, maintenir notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que c'est très important d'expliquer ces choses-là aujourd'hui. Reprenez par exemple toutes ces manifestations dans toute la France, les gens qui manifestent contre le pass sanitaire. Très bien, c'est une bonne chose de se manifester contre ces horreurs. Mais encore faudrait-il voir où sont les véritables problèmes. Si je manifestais contre le pass sanitaire parce que je pouvais aller m'éclater, comme ils disent vulgairement, en boîte de nuit samedi soir, le bon Dieu ne va pas bénir ce genre de manifestation. Oui. Est-ce que je suis capable de garder l'état de grâce dans mon âme? Est-ce que je suis capable de garder, d'aider mes enfants à garder l'état de grâce dans leur âme? Alors, passons, mes bien chers frères, passons par la très Sainte Vierge Marie, évidemment, hein, s'il y en a une qui a jamais perdu confiance en son divin Fils, c'est bien elle. Alors, pour se sauver, on a besoin de la Sainte Vierge, hein. Parce que toutes ces grâces dont je viens de vous parler, surtout la grâce de la charité, ces grâces dépendent directement de la Sainte Vierge Marie. C'est par elle que nous avons ces grâces. C'est pas elle qui fait les grâces, mais elle est l'instrument des grâces. Elle est médiatrice de toute grâce. Elle est co-rédemptrice du genre humain. Alors demandons, eh bien, chers frères, demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses et à les mettre en pratique. Et nous confions à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dirais même d'aller jusqu'à peut-être remercier le bon Dieu de permettre que nous vivions dans cette époque. Une des réflexions qui m'avait le plus frappé quand on étudie la guerre des Cristeros au Mexique, aux années 25-29, 25, c'est ça, 25-26, au Mexique, les jeunes qui s'engageaient dans les Cristeros pour lutter contre la révolution laïque, contre la République laïque de l'époque, et disaient, profitons-en parce que le paradis est à bon marché actuellement. J'aime bien leur expression. Et c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. On est à une époque où le bon Dieu nous donne des grâces toutes particulières pour devenir des héros de la foi. Il est certainement beaucoup plus difficile aujourd'hui pour des cathares de conserver la foi que de conserver la foi au XIIIe siècle. Conserver la foi avec Saint-Louis comme président ou comme roi, c'est quand même nettement plus facile que conserver la foi avec Macron comme président, tout à fait la même chose. Donc Dieu est obligé de vous donner, de me donner aujourd'hui, en 2021, des grâces particulières dont n'avaient pas besoin les catholiques du XIIIe siècle. Donc Dieu a promis qu'on ne serait pas tenté au-delà de nos forces, donc ne nous décourageons jamais, passons par la très Sainte Vierge Marie et demandons-lui la grâce de la fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.